À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Dominique, bonsoir Laurent et bonsoir Serge qui s'habitue à l'antenne. Et alors, on va parler un petit peu d'actualité politique surtout italienne. Ces derniers jours, vous savez qu'il y a eu des élections en Italie, vous savez qu'il y aurait, on en a entendu parler longuement sur les radios françaises, enfin on en a entendu parler longuement deux jours.
Hein, deux jours, après...
On n'a plus entendu parler du tout.
Oui.
On s'est beaucoup affolé, puis finalement, je rappelle que il y avait des élections dites politiques qui étaient destinées à élire les députés et les sénateurs. À l'Assemblée, les députés, la majorité est une majorité d'alliance centre-gauche. Et au Sénat, c'est une alliance centre-droit qui a le plus de sièges. Alors, avec des résultats qui ont mis en avant aussi la montée du fameux parti, il n'aimerait pas d'ailleurs qu'on l'appelle parti, du Cinque Stelle, un mouvement qui a eu à peu près 23% de voix au Sénat et un peu plus d'ailleurs à l'Assemblée. Alors, le Cinque Stelle est du fameux Beppe Grillo, l'ancien comique dans tous les sens du terme, et qui a un mouvement qui a recueilli beaucoup de jeunes gens et beaucoup de députés élus, jeunes, masculins ou féminins, hommes ou femmes. Alors, on disait il y a blocage parce que le président du Conseil va être nommé par le président de la République et les deux assemblées viennent de se réunir pour donner... pour désigner le président de chacune des assemblées, que ce soit celle des députés ou celle du Sénat. Alors on pensait qu'une assemblée étant à droite, une assemblée étant à gauche, effectivement, ça risque de poser problème après pour les votes. Alors on me disait récemment, mais pourquoi ça pose problème, puisque de toute façon, à l'Assemblée des députés, à Montecito, les députés, la majorité est large de parti démocratique, qui est le parti de gauche et ses alliés.
Mais le Sénat est une vraie...
Mais le Sénat a une vraie fonction, tout à fait. Et alors... En plus, la majorité à l'Assemblée est due surtout à la loi électorale qui permet aux vainqueurs d'avoir une majorité absolue de fait, qui est plus de 50%, mais de fait. Sinon, en résultat pur, le centre-gauche avait eu une majorité, certes, mais plutôt courte par rapport à l'alliance de droite, puisqu'ils avaient 29,54%. Pour l'alliance de gauche, donc contre 29-18 pour l'alliance de droite. Mais en étant premier, ils ont une majorité absolue large dans la Chambre des députés, ce qui leur permet de gouverner à ce niveau-là sans problème. Mais comme le disait Serge, en Italie, le Sénat a une fonction bien supérieure, j'allais dire, au niveau des lois par rapport à la France, puisque chaque fois qu'une loi, pour qu'une loi soit présentée et votée, il faut que les deux chambres donnent non pas un avis consultatif, mais aient une décision à prendre sur la loi en question. Alors à droite, on dit qu'ils ont la majorité au Sénat. Alors pas la majorité en voix, parce que c'est l'alliance de centre-gauche qui a 31,63% des voix, alors que l'alliance de droite a 30, un peu moins de 31, quoi. Mais comme il y a des primes à la région, il se trouve que finalement, l'alliance de droite a plus de sièges que l'alliance de gauche, bien qu'ayant moins de voix. Ça, c'est les lois électorales qui font que. Il faut dire aussi que l'alliance de gauche a des alliances, on va dire, réduites, puisque l'alliance de gauche, dans la Chambre des députés, regroupe quatre partis et 6 au Sénat, alors que l'Alliance de droite a une multitude de partis, dont bien sûr le Popolo della Libertà, le fameux parti de Berlusconi, qui lui-même a, sans le dire peu, mais beaucoup baissé en voix. Et il a plus de près de 6 millions de voix de perdu. Hein. Et le parti Bersani, le parti démocratique, lui aussi a perdu des voix tout en étant vainqueur à la Chambre des députés. Voilà pour les pourcentages. Donc, on, ce qu'il y a eu aussi à retenir de ces élections, c'est que les deux assemblées sont devenues... disons que le nombre de personnes, de jeunes gens à cette Assemblée et de femmes a beaucoup augmenté. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, à l'Assemblée des députés, 32%, c'est peut-être encore insuffisant, mais 32% sont des femmes. Et au Sénat, 30%. Et c'est d'ailleurs intéressant, après de descendre au niveau de chaque parti, le PIDI, c'est-à-dire le Parti démocratique de Bersani, le parti équivalent, on va dire, grosso modo, au Parti socialiste, plus de 40% de femmes sont élues députées, 38% dans le fameux mouvement des Cinque Stelle, et 25% chez le monsieur, là, donc, qu'on appelle Berlusconi, qui est visiblement encore de nouveau des soucis avec la justice. Mais enfin, ça, c'est pas très original. C'est pas très original. Alors, il y a eu, je disais, les élections des présidents de chambre. Alors, à l'Assemblée, c'est Laura Boldrini qui a été élue, qui est représentante du SEL, qui est un des partis de la coalition de gauche. Laura Boldrini, qui est plutôt quelqu'un de bien, hein, qui est une dame qui était journaliste, qui est diplômée en droit, qui, après son diplôme de droit, était partie travailler dans les rizières au Venezuela, donc comme Planck, il y a mieux quand même, et puis qui a beaucoup travaillé à la radio, qui était journaliste, et puis qui a travaillé aussi, et qui a été porte-parole de l'UNHCR, qui est une sorte de commission des réfugiés au niveau international, au niveau international. Et elle a été chevalier de l'Ordre du Mérite, elle a eu un médaille officiel de la Commission nationale pour la parité et l'égalité des droits, elle a été désignée italienne de l'année en 2009 par Famiglia Cristiana. Bon, on va dire que c'est quelqu'un de solide et plutôt pas mal, et qui a donc été élue présidente de l'Assemblée nationale. Pour la Chambre du Sénat, eh bien, c'est finalement un gars du Parti démocrate, c'est-à-dire du parti de gauche, qui a été élu. Il s'agit de Pietro Grasso, qui est un homme politique plutôt récent, mais qui est un magistrat très connu en Sicile et qui est un des leaders au niveau de la lutte anti-mafia en Sicile. Et c'est donc lui qui a été élu président du Sénat, bien soutenu, il faut le dire, par une partie des Cinque Stelle. Et c'est là qu'il commence à se passer ce dont on pouvait se douter, c'est-à-dire que les Cinque Stelle, petit à petit, rentrant en politique, ils se prononcent alors qu'ils avaient dit qu'ils ne voteraient pour personne, ils voteraient blanc, etc. Et ils suivent en ce sens-là, ils ne suivent pas du tout les instructions de Beppe Grillo. Et donc on commence à se demander s'il ne va pas d'ailleurs être exclu du mouvement. Parce que maintenant, tous ces jeunes qui arrivent, qui ont autour de 30, 34 ans, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, souvent des gens diplômés, chez eux, tous ne sont pas désintéressés par la politique. Ils sont effectivement, ils ont dénoncé beaucoup de choses au niveau de la corruption, de toutes les magouilles qui peuvent exister et autres. Mais je pense que c'est à suivre et peut-être que c'est un mouvement qui, au départ, est très affolant et puis petit à petit, peut-être qu'il va évoluer. C'est à suivre en tous les cas.
De toute façon, ils vont pas
rester. On peut pas présager de l'avenir.
Ils vont pas rester une législature le doigt sur la couture du pantalon.
Absolument, c'est impossible, de toute façon. C'est impossible. Et c'est ce qui va peut-être faire l'intérêt du suivi qu'on peut avoir de ces mouvements. Alors, c'est pas parce qu'il y a deux majorités, deux présidents de chambre qui appartiennent à la même majorité que ça veut dire que les choses seront simples derrière, parce que à chaque loi suffira sa peine, si j'ose dire. Mais enfin, ce premier vote est quand même intéressant à suivre parce qu'on voit que finalement, dans le mouvement des Cinque Stelle, il commence à avoir quand même des désaccords à l'intérieur du mouvement, ce qui était un peu prévisible.
Ou un voilà. comportement normal.
Ou un comportement logique, je suis élu, donc je me prononce. Voilà. Voilà. Bien, on va peut-être écouter une première chanson, parce qu'il y a une actualité italo-française à Bourgoin, grâce à Inis, il faut le dire quand même, puisque pendant la semaine dédiée aux femmes, Inis avait organisé une soirée chansons de femmes avec Céline Pruvot et Erika Boschero. Une soirée qui a plutôt été une soirée à succès.
Un succès.
De jeunes personnes de grande qualité, il faut quand même le reconnaître et le dire haut et fort, et qui méritent qu'on les suive dans l'avenir, à l'avenir. Pardon. Et on va écouter Anita de Erika Boschero. Anita, qui est une chanson qui a pris effectivement ce prénom. Erika a raconté le contexte de cette chanson. Elle était à Padoue. Elle prenait le bus numéro 12, pour être précis. Une femme assez étrange est montée dans le bus qui sortait de l'hôpital psychiatrique et habillée de façon très particulière. Elles se sont fixées l'une l'autre et cette personne est descendue à l'arrêt qui se trouvait à deux pas de la place Garibaldi, pardon, où il pleuvait beaucoup. Cette personne, alors que tous les gens étaient avec leur parapluie, elle était tête nue, s'inondait de cette eau qui venait comme un cadeau pour elle. Et elle, elle proférait des paroles un peu incompréhensibles, elle crachait par terre, etc. Et Erika y a vu, en ce rapprochement de Garibaldi, une personne qui aurait pu vivre à l'époque de Garibaldi, qui reviendrait maintenant en Italie et qui aurait un jugement sur ce qu'est devenu l'unité souhaitée par Garibaldi. Et à la fin, elle retourne, elle reprend son bus, elle retourne dans son hôpital psychiatrique. Et les dernières phrases de la chanson, là derrière la fenêtre, un semblant de réalité, dedans, dehors, tout sera mêlé, c'est-à-dire bon, l'extérieur, l'intérieur, hôpital psychiatrique, le bus, finalement, tout est un petit peu mêlé. Et au début, la chanson dit, sortie de l'hôpital psychiatrique de la cité, elle a le monde pour elle. Pendant son heure de liberté, le 12, elle doit prendre le 12, l'arrêt est là, le voici, il arrive, allez, monte. Profites-en, Eva. Elle arrive donc à la place Garibaldi. Oh, Giuseppe, ta fille est en ruine. Elle pleure et agonise en vitrine. Le drapeau tricolore flotte sur le mensonge. Le pilori sera son destin. Erika Boschero.
Dal manicomio della città, al mondo per lei nella sua ora di libertà. Il 12 deve prendere 12, la fermata è là. Ecco arriva, forza sali, prendi tutto e va. Piazza Garibaldi, prego, sa memoria l'orario. Capochino, sguardo acuto e al collo una corona del rosario. Giuseppe lì mi aspetta da 200 anni. Io l'amerò di nuovo e spero non mi inganni. Piove, si aprono le porte, lei si avvicina. Ama la statua intanto sputa sull'Italia che cammina. Garibaldi, sguardo di pietra e piccioni sulla testa. Guarda il tetto di ombrelli danzanti in questa strana giostra. Oh Giuseppe, tua figlia è in rovina. Fermata, alza il braccio nella pioggia che le è stata regalata. Le gocce sul finestrino corrono veloci nell'andare, portano via i pensieri di chi continua a camminare. Lì dietro al vetro un'apparenza di realtà, ciò che è dentro e ciò che è fuori si confonderà.
Voilà Erika qui était accompagnée à Bourgoin de Ricardo Sartorel à la contrebasse et d'Enrico Panin au saxophone et à la clarinette. Dominique, tu avais aimé ce spectacle ?
Magnifique. Magnifique.
Les deux
une grande qualité, une grande sensibilité aussi, ce qui est assez rare.
Avec les deux femmes ensemble, dans deux registres différents.
Complètement différents, mais qui étaient capables de faire des choses ensemble magnifiques aussi.
Qui, je pense, en refont ensemble.
Ouais, oui.
Bien, aujourd'hui, tu nous parles de littérature, comme d'habitude d'ailleurs, chronique littérature par M. Dominique Molin.
Alors, je voudrais parler de « Tous les salauds ne sont pas de Vienne » d'Andrea Molesini.
Ah, mais c'est le titre du bouquin.
C'est le titre du bouquin.
D'accord.
Absolument. Titre italien « Non tutti i bastardi sono di Vienna », qui a été publié donc par Einaudi en 2010, qui vient de paraître en France chez Kalman Levy. C'est un assez gros roman de 357 pages qui a été traduit magnifiquement par quelqu'un qu'on connaît plutôt bien, Dominique Vitoz.
Ah, mais Dominique, ouais, c'est Dominique qui a traduit.
Elle est entrée en traduction, si je puis dire, comme on entre en religion il y a une dizaine d'années avec Andrea Camilleri.
Qui était membre de l'INIS, Dominique, elle était adhérente.
J'ai vu qu'elle était de la région, mais je ne savais pas que c'était...
Bien sûr. Un des titres de Camilleri qu'elle avait traduit, qui était très intéressant, c'est le travail qu'elle avait fait. C'est Camilleri qui est italien-sicilien, qui écrit souvent en italien et sicilien.
Absolument.
Elle avait traduit un de ses ouvrages en français et en lyonnais. Elle avait pris des cours de lyonnais.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire qu'elle avait mené son travail de traductrice plus que sérieusement, puisqu'elle avait, elle s'était inscrite à des cours à Lyon de lyonnais.
Ouais, alors c'est intéressant là, ce qui vient d'être dit, parce qu'elle a également, et je pense avec le même état d'esprit, traduit Milena Agus et puis Marcello Foïs.
Qui sont sardes.
C'est donc quelqu'un qui adore les métissages linguistiques, qui travaille sur l'italien, le sicilien et effectivement le lyonnais et puis d'autres parlers français, je crois. Elle a fait un truc avec le parler poitevin. Voilà. Et pour elle, donc, je la cite, une bonne traduction est une traduction qui trouve la distance juste avec le texte de départ, malgré une part de déperdition. À un moment donné, le texte d'origine est comme absorbé par le traducteur. On peut alors se mettre dans son texte à soi, trouver une voie. Donc, ce roman de Andrea Molesini, c'est un premier roman. Et alors, l'auteur est quelqu'un qui est plutôt jeune, qui vit à Venise, où il est né, il doit avoir un peu plus de 50 ans. Il enseigne les littératures comparées à l'université de Padova. Et avec ce roman, qui est traduit dans de nombreuses langues, il a obtenu le prix Campiello en 2011. Et le prix Campiello, c'est un prix très important en Italie. C'est un prix qui, curieusement, est décerné par une fondation, donc des entreprises, mais qui, si on regarde la liste de tous ceux qui ont été primés, est un prix de très, très, très grande qualité. Donc, ce Andrea Molesini a d'abord écrit des livres pour enfants, et puis lorsqu'il a compris qu'il ne réussirait plus à produire des livres suffisamment forts, il s'est mis à la traduction, notamment à la traduction poétique. Et puis il a fait ce roman, il vient de faire ce roman il y a 2 ans, qui est un truc, selon moi, extraordinaire. Vraiment, un très très grand roman, je pense. Je pense qu'on a là quelqu'un, on attend avec impatience qu'il nous fasse une deuxième production romanesque, parce que c'est vraiment quelque chose de grandiose. Donc l'histoire, c'est très simple, ça se passe pendant la guerre de 14-18, pas très loin de Venise, dans ce qui est actuellement, si j'ai bien regardé ma géographie, la province de Trévise. On n'est pas loin du fleuve Piave, l'armée italienne recule face à l'avance des armées autrichiennes, austro-hongroises, Et ça se passe donc dans une villa, j'ai l'impression que c'est une villa palladienne, en tout cas une vieille villa qui existe toujours, du XVIIe siècle, et donc la villa est occupée par l'état-major de l'armée autrichienne. C'est un grand livre, superbement traduit, qui est la chronique d'une occupation et des réactions que celle-ci suscite. Portrait d'une famille qui, petit à petit, sans verser dans un héroïsme hors de propos, prend conscience de sa responsabilité. Un roman magnifique qui raconte avec tendresse le quotidien bouleversé des propriétaires de cette villa en Vénétie, qui n'avaient jusque-là pas eu à subir les conséquences de la guerre. Portrait d'une famille, chronique des petites choses de la vie. Le roman n'oublie pas que les troupes italiennes viennent de subir un très lourd revers et dit magnifiquement les vexations sans rien cacher des compromissions. Alors j'aime beaucoup les portraits qu'il nous fait, et notamment les portraits du patriarche, hein, du grand-père et puis de la grand-mère. Mon grand-père mettait volontiers le monde en maxime. Libéral grandin, il se gaussait des timides sympathies socialistes de ma grand-mère. Enferme dans une pièce trois de tes petits camarades et en moins d'une demi-heure, ils professeront quatre opinions différentes. Il consacrait tous les jours de longues heures à écrire un roman interminable dont, affirmait ma grand-mère, il n'avait pas couché la première ligne. C'est une pause pour tenir à distance les rustres et les morveux. En tout cas, personne n'osait former la porte de son pensoir, la pièce exiguë, où il passait le plus clair de son temps, sauf quand il pleuvait, car il sortait alors se promener seul, sans parapluie, coiffé de son chapeau de feutre, au bord râpé. C'était en revanche un excellent joueur de briscola et un passionné d'histoire. Il écrivait aux Gazzettines, aux des lettres que la rédaction du journal ne publiait jamais, parce qu'elles couvraient d'insultes les édiles de la cité lagunaire, tous allant croire dignes rejetons de curés béotiens. Ma grand-mère, en revanche, lésinait surtout. Si la question se posait de débourser une demi-lire, elle tranchait « on va éviter », et l'occasion d'éviter se présentait une bonne vingtaine de fois par jour. En dépit de ses 70 ans, elle était grande et droite, forte et belle, une panthère aux cheveux blancs. Voilà, coup de canon, fumée, odeur, mouvement de troupes, avions anglais, allemands et italiens qui survolent la région. Village fantôme, représailles exercées par l'occupant contre des gestes jugés hostiles, la guerre est bien présente tout au long du livre, mais au moins en apparence, elle n'en constitue pas le sujet principal. L'auteur raconte les gestes petits et grands d'une résistance qui, au fil des jours, prend de plus en plus de place. Il décrit les liens inévitables qui se nouent avec l'occupant, n'éludant pas ces moments où la compromission n'est pas loin. Voici donc le grand-père qui fait semblant de se retirer dans son réduit pour écrire un roman, la grand-mère sûre d'elle-même et de ses principes, le jeune Paolo qui en peu de temps découvre l'amour et la guerre. Il y a cette tante Maria qui ne peut s'empêcher de rechercher la compagnie du commandant autrichien, dont Andrea Molessini propose un portrait tout en nuances. Il y a Renato, l'homme à tout faire, engagé dans la résistance. Il y a, une fois ouvert le livre, on ne le quitte plus.
Donc on rappelle le titre.
Alors, Tous les salauds ne sont pas de Vienne, chez Kalman Levy, un roman de 357 pages, paru en 2013, je crois, de Andrea Molessini.
Donc nom à retenir.
Absolument.
Alors Serge, on avait, la dernière émission, on avait beaucoup développé sur Slow Food et quelques producteurs que tu avais rencontrés.
Exactement. Et dans le Piémont.
Dans le Piémont, oui, puisqu'encore aujourd'hui, on va beaucoup parler du Piémont. Et donc, on va continuer.
On va continuer.
Tu avais fait toute une série d'interviews là-bas.
Alors, j'ai interviewé Paola Nanno, qui est la directrice de la communication de Slow Food. Et l'interview dure 40 minutes, donc où j'ai extrait les interviews du mois dernier et de ce mois-ci. Et l'interview entière sera sur le site, comme les émissions de radio.
D'Inis. Tout à fait, qui est www.italienhorizon.com. Là, tout le monde le sait, tout le monde va sur le site. Donc,
alors, dans la précédente émission, on avait mis l'accent sur deux actions de Slow Food, on va dire des actions régionales, qui s'appelaient les Sentinelles du goût, pour sauver...
Des anciens
produits végétaux ou animaux ou même des plats.
Des anciens cépages aussi.
Et on avait parlé du Salon du goût, cette manifestation qui a lieu tous les deux ans à Turin. Aujourd'hui, on va prendre peut-être un peu plus de hauteur et voir la partie plus institutionnelle, plus macroéconomique de Slow Food. Donc Paola Nanno va nous expliquer la philosophie de Slow Food, qui est, comme on peut le sentir, de prendre un peu le contre-pied du capitalisme pur et dur ambiant. Et je pense que c'est au début des années 2000, Slow Food avait eu l'idée de lancer un mouvement qui s'appelait Slow Cité. Il s'agissait de passer une convention avec des mairies pour que les gens soient peut-être un peu moins stressés, mais au travers d'actions particulières dans la ville. Alors ce projet était un peu ambitieux, Slow Food démarrait un peu, il a été mis en sommeil, mais ça relève de la même philosophie. Donc on écoute Paola Nano.
La politique, c'est ça, c'est partir de l'idée que ce système de production, de distribution de la nourriture, le système de agroalimentaire à niveau global, c'est quelque chose qui a fait faillite, qui a démontré que c'est pas durable, c'est complètement un système qui est fou, puisque ça fait que dans les pays riches, il y a une épidémie d'obésité et de diabète, et ceux qui en sont concernés sont justement dans les pays riches, les pauvres, les gens qui appartiennent au niveau plus bas de la société. Et aussi, donc nous avons des obèses dans le nord du monde, et pour simplifier, et nous avons des gens qui souffrent de malnutrition et de faim dans les pays du sud du monde. En plus, ça ce sont des données de la FAO, plus que 40% de la nourriture qu'on produit globalement dans le monde est jetée. Tandis qu'elle pourrait être encore édible, comestible. Ça se fait parce que nous avons des habitudes qui ne sont pas bien dans notre vie quotidienne, mais aussi en grande partie parce que le système de la grande distribution fait que une partie énorme de la nourriture est jetée avant que ça puisse rejoindre le consommateur. Et donc, la politique, c'est de créer un système alternatif. Un système alternatif qui ne passe pas par les lois des grands groupes de distribution, mais qui passe par un changement d'habitude, un changement culturel dans des idées des gens et dans les consciences des gens.
Voilà, donc ces propos sont pas très originaux. Par contre, la caractéristique de Slow Food, c'est d'essayer de rendre concret ces idées. Dans une interview au Monde en 2010, Carlo Petrini, le fondateur de Slow Food, avait dit « Il faut sortir du doux folklore du bon produit ». Et ceci voulait dire que Slow Food se donnait un accent politique, se voulait un acteur politique en interpellant les consciences et en se voulant un mouvement de référence. Slow Food, maintenant, donc Slow Food qui a été créé, je rappelle, en 1986, donc a une reconnaissance mondiale. Ils sont des interlocuteurs au niveau de Bruxelles, au niveau de beaucoup d'organismes non gouvernementaux. Et donc là, Paola Nano va nous énumérer les interventions de Slow Food dans la politique économique.
Un courant d'opinion qui est important aussi par rapport aux institutions internationales, politiques, dans le monde. Par exemple, nous sommes en train de sensibiliser et de faire une campagne sur la nouvelle politique agricole commune qui est en train d'être revue. Oui, c'est à fin 2013 que ça devrait être... en plus, Carlo Petrini a été invité en 2012 au sommet international de Rio più 20 qui était sur le changement climatique. Et nous collaborons avec la FAO.
D'accord.
Et donc, c'est un peu un interlocuteur, est devenu un interlocuteur
reconnu
par ces institutions internationales.
D'accord.
Alors, l'intervention de Slow Food dans la renégociation de la PAC n'a pas dû beaucoup porter ses fruits parce qu'en gros, la PAC va... On ne peut pas dire qu'elle va être reconduite telle que, mais les subventions aux plus gros vont rester. Donc il reste encore beaucoup de travail à faire à Slow Food.
C'est assez édifiant en plus.
C'est assez édifiant, oui.
Complètement fou. Mais il semblerait que ces subventions, on puisse les consulter maintenant de façon claire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est-à-dire voir comment elles sont distribuées. Alors peut-être par pays plus que par...
C'est surtout, je crois que le gros problème des subventions européennes, c'est qu'elles favorisent la monoculture. Et le plafond est de 300 000 euros, je crois, par exploitation. Quand on voit ça... Donc, les Verts voulaient que ce soit limité à 100 000 euros, qu'une seule culture ne devait pas représenter plus de 60 %, je crois. Donc là, ça cassait un peu le drainage des subventions dans le bassin parisien, en gros, parce que c'est les céréaliers qui touchent tout.
Là encore, on est dans le lobbying parfait, quoi.
Alors, un point que j'ai abordé aussi avec Paola Nano, je n'ai pas l'enregistrement de sa réponse, là, parce qu'on était un peu court en temps, c'est celui de Slow Food et l'argent. Pour qui prend contact avec Slow Food de l'extérieur, ça apparaît parfois comme une organisation de nantis élitistes. En gros, quelques exemples, l'université de sciences gastronomiques, le prix de la scolarité est égal à celle d'HEC, les hautes études commerciales, la plus grande école de commerce en France. L'entrée du salon du goût, c'est 20 euros. À titre d'exemple, prime vert, c'est 8 euros.
Oui, c'est pas tout à fait pareil quand même.
C'est pas pareil, non. Ce qui n'est pas pareil non plus, l'hôtel que gère Slow Food à Polenzo, les chambres, c'est entre 180 et 400 euros.
Là, ça
me
paraît plus parlant. Mais le salon, je dirais, quand on voit le prix des salons en général, ce n'est pas ce qui me choque le plus. L'hôtel, serais déjà plus
La restauration des bâtiments de Polenzo est très bien faite. C'est très, très joli. C'est un peu éloigné quand même de l'objet de Slow Food. Et alors, en plus, ce côté élitiste, moi, je n'ai pas fait de latin. Et Slow Food appelle ses délégations régionales des conviniums. Donc, on voit l'idée de partager avec le préfixe con. Mais pour qui n'a pas fait de latin, c'est quand même une petite barrière. Alors, à la question posée que vous pourrez donc voir dans écouter la réponse de Paola Nano, elle ne répond pas vraiment et elle s'en sort par une anecdote en disant que les pauvres qui ont en Afrique quelques élevages de poules sont bien contents de trouver un bon restaurateur qui vend ses plats très chers et qui achète ses poulets. Bon, la réponse était...
Oui, mais alors... non, mais c'est intéressant ce que tu dis au niveau débat, même si, encore une fois, moi, le salon, ça me choque pas plus que ça. L'hôtel, oui, beaucoup, les restaurations et tout. Enfin, beaucoup. Ça paraît étonnant.
Il doit y avoir le service en conséquence.
Mais alors après, il faut se demander, est-ce que leur action est une vraie action? Est-ce qu'elle profite aux gens, ou à l'italien, aux français, enfin, moyen, on va dire? Ou est-ce que ce n'est réservé? Parce que si l'élitisme est une organisation qui est devenue riche, parce que un peu c'est ce qu'on peut dire, grosso modo, mais qu'elle profite qu'à une partie de la population, là, c'est complètement débile. Si effectivement c'est toute une population qui peut en profiter sur des circuits courts et autres, ça se discute davantage.
Je ne pense pas que ce soit le cas, que ça profite qu'à
qu'à une élite, hein, parce que les gens, les agriculteurs, j'ai été interviewé, on a fait l'interview dans la,
oui,
dans la cuisine de la salle.
Voilà, nous en a cuisine,
donc,
gens,
donc pour moi, ouais. Slow Food est, je pense, un mouvement qui respire l'argent, mais ça n'efface pas les actions voilà, qu'ils mènent. Hein. Surtout là, et surtout, leur, ça ne porte pas atteinte à la pertinence des actions, hein, c'est évident.
Sur l'année universitaire, on va appeler comme ça, je le savais, j'ai un fils d'un ami italien qui, est, qui a suivi des cours à Slow Food. Et son père avait dit qu'effectivement, ce n'était pas donné. Ce n'était pas une famille richissime, disons qu'il y avait quelques moyens. Par contre, il disait que l'enseignement était solide.
On le verra tout à l'heure après la chanson.
Alors la chanson, donc tu veux qu'on écoute une chanson, eh ben on va rester dans le Piémont. Alors vous avez entendu parler ces jours, de ces derniers jours, d'un monsieur Bergoglio qui a été élu pape. Alors monsieur Bergoglio est argentin.
Argentin, oui.
Mais son grand-père s'appelait Giovanni Angelo Bergoglio. Et il est originaire d'un petit village, d'un hameau exactement, Brico Marmorito, rattaché à la commune d'Asti, que tu connais bien, Serge. Donc c'était son grand-père paternel. Et son père, le papa donc, du pape, Mario José Bergoglio, lui est né à Turin. Lui aussi est né en Italie, à Turin. Et du côté de sa maman, donc la maman du pape, est née en Argentine, mais elle est elle-même aussi fille d'immigrés italiens qui vivaient en Ligurie.
Donc c'est comme en France, quoi, les immigrés.
Donc, voilà. Et, entre eux. D'ailleurs, on se demande si dans l'élection du pape, il y a toujours chaque fois.
C'est quand même un Italien.
Pape, est-ce que c'est un Italien, est-ce que c'est pas un Italien? Certains voulaient un Africain, d'autres un gars d'Amérique du Sud. Ça fait longtemps qu'on parle d'un pape d'Amérique du Sud, finalement, ils se sont peut-être dit, c'est moi qui...
Oui, mais c'est possible.
On ne peut pas ne pas y penser.
Se dire, lui, il a un peu les deux, ça va arranger tout le monde. Bon, on passera toutes les discussions autour de lui, de son passé avec la dictature argentine et tout ça, là, n'en sachant rien, on ne va pas se prononcer. C'est vrai qu'il y a des choses pas toujours très claires. Alors, par contre, j'ai appris qu'il faisait venir, et il le fera, continuera à le faire, il fait venir au Vatican de l'Asti. Donc, il tourne, si j'ose
dire. Il tourne à l'Asti.
Et tout à l'heure, Laurent a fait un jeu de mots, il peut le répéter. Mais... tu nous disais, Laurent ?
Je disais que c'est juste une faute de frappe, sans nul doute.
Ah, d'accord.
Il va tourner à l'hostie.
D'accord. Voilà. Bon, alors, pour redevenir sérieux, comme on est toujours sérieux à cette émission, et en fait, des immigrés italiens en Argentine, il y en a effectivement énormément
Je crois que c'est le premier pays d'immigration.
Oui, absolument. Mais d'ailleurs, la langue italienne, il y a eu... La langue officielle est espagnole, mais il y a eu une grosse hésitation à un moment, langue italienne ou espagnole, parce que beaucoup d'Argentins sont d'origine italienne. Alors, ce qui a fait la différence, c'est que beaucoup étaient de régions différentes, donc de langues dialectales différentes, plus que de l'italien classique, on va dire. On va écouter une chanson là, qui s'appelle « La Fondamento del Mafalda ». Alors, c'était un bateau, le Mafalda, un des nombreux bateaux qui partaient, qui était surchargé, beaucoup plus que ne le devrait permettre sa contenance.
Comme maintenant,
surchargé d'immigrés, tout à fait, mais tout à fait... sauf que là, c'était des départs vraiment officiels et autres. Et ce bateau qui se dirigeait précisément vers l'Argentine avait coulé. Et on va entendre là une version qui a été recueillie dans 1979, parce qu'il y a eu plusieurs chansons sur ce naufrage du Mafalda. On va entendre Cecilia Bertelli, qui est la fille de Gualtiero Bertelli, qu'on a fait venir l'an passé, Elena Biasibetti, Giuseppina Casarin et Rosana Zuccaro à la voix, accompagnée par Gualtiero lui-même Bertelli à l'accordéon, avec Simone Nogarin, qu'on a vu aussi avec Gualtiero l'an passé à la guitare acoustique, et Paolo Favorito. Donc de l'Italie, le Mafalda partait avec des milliers, voire plus de passagers. L'équipage obéit au commandement d'un vieux capitaine sicilien, intelligent, vrai loup de mer, l'homme a au cœur le plus humain que l'on pouvait imaginer et que dont l'histoire peut se rappeler. Et le Mafalda naviguait majestueux à bord. On entendait chanter les chansons du rythme allègre que l'Italie seulement l'Italie savait faire. On parle de cette époque-là. Donc ce Mafalda, son naufrage est arrivé et s'est produit en 1929. Il a officiellement causé la mort de 314 passagers, mais ça c'était un chiffre qui a été considéré comme officiel, mais un journal argentin lui avait parlé de 657 victimes, et je crois qu'il y avait eu un combat avec les assurances là-dessus aussi et sur le nombre exact de victimes. En fait, il était tout simplement surchargé. Voilà, on va écouter donc le naufrage du Mafalda, ce bateau qui se dirigeait vers l'Argentine.
Dall'Italia Mafalda partiva con migliaio e più passeggeri, l'equipaggio solerte obbediva ai comandi di un vecchio nocchier. Il capitano fu un siciliano intelligente, vero lupo di mar, l'altruista dal cuore più umano che la storia potrà ricordar. Navigava il Mafalda maestoso e da porto si udiva che l'Italia soltanto sa far. E la gioia più intensa regnava sull'italico e grande vapore veloce l'oceano solcava, certo ignaro dei mani e valore. Dopo 15 giorni di viaggio sotto poppa una palla si aprì, pronto a correre l'intero equipaggio. Si è fatto compire, l'acqua entrava, ma il buon comandante col telegrafo soccorso implorò, poi con voce commossa e sonante lancia un grido, si salvi chi può. Un migliaio di vite salvò e ad che siete degni dei massimi onori. In ogni bocca si sente a dire che siete degni dei massimi onori.
Voilà, la chanson dit sur sa fin que grâce à Marconi, notre Marconi, comme dit l'auteur, qui avait inventé la radio, et cet navire ami avait pu, de nation amie avait pu être appelé et avait pu sauver un millier de vies.
Superbe chanson.
Oui, oui, oui. Souvent, ces chansons de chants d'immigrants sont souvent magnifiques.
Ouais.
Alors, Serge, on continue. Alors, tu voulais nous donner quelques précisions, je crois, sur ces... C'est court, on va dire.
Alors, donc, sur l'université du Goût, qui se trouve. Enfin, c'est pas, au début, ça s'appelait l'université du Goût, ça s'appelle l'université de sciences gastronomie, qui reflète un peu plus la réalité. Cette université est située à Pollenzo, donc à côté de Brade, au sud-est de Turin. Et alors, c'est pas une école de cuisiniers, en fin de compte. Hein. C'est une école qui prodigue un enseignement transversal autour de la gastronomie ou de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut y enseigner de la littérature ou de la chimie, c'est-à-dire le changement des molécules qui s'opèrent dans la casserole. Donc c'est quelque chose qui est vraiment innovant et d'après ce que j'ai compris de l'interview, les gens qui y sont ne sortent pas avec un métier, mais cette formation les influencera tout au long de leur carrière qui bien sûr tournera autour de la gastronomie et de l'alimentation.
Ce qui peut expliquer, tu disais par contre, Dominique, dans le prix, que beaucoup de choses en fait sont comprises dans ces fameux prix dont on parlait tout à l'heure.
Absolument, y compris le logement, si on accepte l'internat, oui.
Alors Paola Nano nous parle de l'université du Goût.
Oui, c'est une université privée, donc on n'a pas de subvention de la part de l'État. Il faut dire que l'université de sciences gastronomiques est une université qui a un titre légal reconnu. Donc le parcours, c'est le parcours de toutes les universités italiennes, c'est-à-dire 3 ans pour avoir une laurea breve, on l'appelle ici, plus 2 années pour avoir une laurea de spécialisation, si on veut. Et après, il y a aussi les cours, les masters. C'est une université qui a commencé en 2004. Et déjà, sont passés plus que 1000 étudiants. Et la chose intéressante, c'est que ces étudiants viennent de environ 60 pays du monde. Donc, c'est une université qui a une ambiance très internationale.
Alors, elle débouche sur des métiers particuliers ou
du goût. C'est une culture, pas seulement du goût, c'est étudier les sciences gastronomiques, la gastronomie, d'une façon multidisciplinaire. C'est-à-dire que la gastronomie peut être économie, peut être biologie, peut être microchimie, peut être histoire historique, peut être littérature aussi, peut être... C'est ça que je disais, c'est de conjuguer l'aspect des sciences humaines et des sciences scientifiques.
Voilà, donc Paola a bien détaillé le côté transversal de l'enseignement. Autre action de Slow Food, c'est Terra Madre. Terra Madre, c'est un lieu de rencontre qui est parti, on peut dire, sur un coin de table à l'occasion d'un salon du goût où des producteurs du monde entier, de produits complètement différents ou des transformateurs, se sont rencontrés et ont voulu institutionnaliser un peu leur rencontre. Donc, Terramade est simple, enfin, on peut dire, entre guillemets, simplement un lieu de rencontre et d'échange, mais c'est beaucoup plus que ce nom un peu superficiel de lieu de rencontre, c'est-à-dire que ça permet à des agriculteurs qui essayent toujours de travailler en dehors des circuits de la grande distribution, de ne pas se sentir isolés et d'échanger même leur façon de faire, puisqu'ils sont toujours dans leur espace géographique un peu marginaux. Donc deux marginaux ont quand même des points communs à travailler ensemble.
Il y a un film intéressant qui est sorti sur Terramade.
Ah oui. Donc Paola va nous détailler Terramade.
Il y a des rencontres de Terramade dans les différents pays.
Donc Terramade, c'est la rencontre.
La rencontre des producteurs, mais disons que Slow Food est le moteur et l'organisation qui tient et favorise ce contact et cette réunion et cet échange d'informations.
Des échanges entre les producteurs entre eux ou entre les producteurs et les consommateurs ?
Non, c'est aussi des échanges tous les deux. Et ça, c'est important. Ce sont des échanges parmi les producteurs parce que c'est bien pour eux de trouver, de discuter leurs problèmes, leurs difficultés, et surtout quand ils sont dans le même pays, dans la même région, ou bien aussi ils ont une condition d'environnement et de conditions climatiques qui sont similaires.
Voilà. Alors, quand, à la fin de l'interview de Paola Nano, m'est venue l'idée suivante, c'est-à-dire, quand on parle de Slow City, que j'évoquais au début, ces circuits de distribution en dehors de la... ces circuits de distribution en dehors de la grande distribution, j'ai demandé à Patricia Nano s'il n'y avait pas un lien entre Slow Food et la décroissance. C'est-à-dire que la décroissance des gens qui se... C'est un mouvement qui existe en France et qui existe en Italie aussi. C'est-à-dire que, en deux mots, ce sont des gens qui ne surconsomment pas d'énergie, qui se déplacent en vélo, etc. Qui limitent leur déplacement d'une manière générale. Et Paola, il faut bien écouter ce qu'elle va nous dire, parce qu'elle précise bien les limites entre Slow Food et la décroissance. En gros, Slow Food ne s'inscrit pas dans la décroissance, mais vous... Comment ?
J'ai dit, on l'avait compris.
On l'a compris, oui. Mais voudrait quand même aménager le système actuel. Donc Paola nous parle des liens entre Slow Food et la décroissance.
Bon, ces deux mots de croissance et de décroissance sont tous les deux l'expression d'un concept, ce sont les deux opposés d'un même système de pensée. C'est-à-dire, il y a la pensée, il y a la théorie qu'il faut pour garantir un niveau de vie toujours plus, il faut toujours consommer de plus, produire le plus. Et l'autre, c'est la décroissance, c'est-à-dire il faut renoncer, il faut un peu faire l'opposé. Alors, je crois, nous n'avons pas une solution. Moi, personnellement, je crois que il faut changer complètement cette vision dans les deux opposés. Il faut trouver quelque chose qui soit différent. Il faut, d'un côté, effectivement, il faut s'engager vers un respect des ressources de l'environnement qui ne sont pas infinies.
Exactement.
Donc, il faut prendre conscience qu'il faut respecter les rythmes de la nature et donner la possibilité à la nature
de se renouveler.
Et nous avons complètement, jusqu'à maintenant, nous avons eu une action vers l'environnement, vers la nature, absolument de rapine,
de vol. On
a pillé la nature, c'est ça. Il faut trouver un nouvel équilibre. Et ça doit partir directement de la société. C'est pas une solution qui va être trouvée dans cette crise par les politiciens ou les grands théoriques qui sont ceux qui mettent au point les théories mondiales. Il faut que ça vienne de la base.
Très intéressant ce qu'elle dit.
Oui, ce qu'elle a dit à la fin, c'est très, très intéressant.
On
parce
est au
que,
cœur complet de
tout
la société
fait.
Actuelle.
Elle appelle à l'engagement de chacun. Mmh. Et c'est, je crois, que ce que Slow Food crie haut et fort.
Mais ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission sur la politique, ce fameux mouvement qui, effectivement, est un mouvement qui peut faire peur au départ de Cinque Stelle, et parce que quand il est basé sur un individu qui ne fait que rejeter tout ce pourri, etc. Ouais. Et il y a une part de vérité, bien sûr, mais c'est quelquefois un peu facile aussi. Ouais. Et peut évoluer d'une façon peut-être intéressante, surtout avec des... C'est pas qu'il y ait une notion d'âge, mais que des jeunes arrivent en politique et puissent s'exprimer. Après, il ne faut pas effectivement qu'ils soient eux-mêmes coincés par un système, mais il ne faut pas non plus...
Ils peuvent le devenir au bout d'un certain temps, mais il y a quelques bonnes années à prendre.
Mais il y a peut-être des choses à suivre. Alors, dans chaque pays, on sent des petites choses là. Alors, l'idée de croissance, bon, la croissance, c'est le dada du capitalisme, mais qu'est-ce que c'est le capitalisme si c'est la liberté d'entreprendre ou de circuler, ou si c'est devenu ce que c'est devenu maintenant, c'est-à-dire quelque chose de complètement qui nie l'individu. Quoi.
Le moment est peut-être venu de remplacer le produit intérieur brut par le bonheur intérieur brut.
Absolument, le bib.
Le bib.
Non, mais c'est vraiment elle l'exprime très bien, moi je trouve, c'est le vrai débat actuel.
C'est intéressant.
Et c'est très très intéressant.
Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de Slow Food.
En tout cas, c'est...
Donc l'interview qui dure 40 minutes sera sur le site.
Mais c'est très bien. Et puis, ces séries d'interviews, je pense, ont permis d'apprendre beaucoup de choses en direct sur Slow Food, par Slow Food, la dernière interview, les deux, trois dernières interviews, et par les gens qui font partie du réseau de Slow Food, qui étaient, pour certains, Primevert, d'ailleurs.
Exactement.
Qui exposaient... Pas pour la première fois, d'ailleurs, à Primevert. Bon, mais on va finir en chanson. On va rester dans le Piémont, hein, et on va parler de gastronomie. Alors, il y a une vieille recette que les Piémontais connaissent bien, puisqu'elle date du Moyen-Âge, c'est la bagna cauda. Cauda, c'est une sauce à base d'ail, d'huile d'olive, d'anchois, dans lequel on trempe des légumes crus, que ce soit des cardons, des céleris, des choux, des poivrons, des carottes. Et c'est très agréable, tout le monde se met autour, discute, devise sur la croissance, par exemple, hein, ou la décroissance. Et on va l'entendre, cette recette, mais chantée. Par le groupe Ariondella, qui est un groupe polyphonique du Piémont, constitué de trois jeunes femmes qui chantent remarquablement bien. Et elles vont donc nous chanter cette chanson, cette recette, on peut dire, en piémontais. Au début, elles font...
La testa città mi cambita e conti insieme con le masna.
La testa città mi cambita e conti insieme con le masna.
Hai la gente che per male,
hai anche il cuore lui vogliant
allare. Le dietologie da brusa cœur,
le bagna cauda pa caffè l'aria.
Palmera rasche
Barbera, Barbera, testum. Barbera, raschera, Barbera, testum. Barbera, raschera, Barbera, testum.
Ant la ramina con l'oli d'oliva, ans al canton del potager, buta i anchoue e laia tuquet.
Con tutte tue resche vincia pila, bimmi tu na mai fricassa.
Con tutte tue resche vincia pila, bimmi tu na mai fricassa.
Barbera, raschera, Barbera,
testum.
Barbera, raschera, Barbera,
testum. Sunge la tavola che aspetta da là, e le bude la tua modista, sunge la tavola che aspetta da là. Un paio sarà ben pro, a tua bagna cauda rendu, fai l'or, a tua bagna cauda rendu.
Voilà, mais on, sur un fond d'Ariandel, on souhaite à tous une bonne soirée et au mois prochain pour la suite des aventures dans le Piémont.
Allez, bonsoir.
Au revoir.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie. Thank you.